Alors, monsieur Penformis, vous êtes endocrinologue, diabétologue au centre hospitalier sud-francilien à Corbeil-Essonnes. Vous avez une quinzaine de minutes à peu près. Merci.
Merci de cette invitation. Merci au laboratoire Abbott de m'avoir sollicité pour vous parler effectivement. Je dois faire quelque chose ou pas du tout, moi ? Rien du tout. Du freestyle libre 5 ans après, parce qu'effectivement, la disponibilité de cet outil date de 2014. Nous sommes en 2019, donc on est à 5 ans. Ça arrive. Par contre, c'est moi qui passe les diapos, c'est ça ? Voilà, j'ai vu qu'on pouvait maintenant mettre cette diapositive pour les liens d'intérêt. Donc voilà, si vous êtes curieux, vous allez voir www.transparence.centre.gouv.fr et vous verrez tous les liens d'intérêt. Ah oui, c'est gentil, merci. Ouais. Alors vous savez que pendant, on y a fait allusion tout à l'heure, Nadia Tubiana vous a montré un peu l'historique de toutes les évolutions en diabétologie, dans le diabète de type 1 en particulier, et que les 40 dernières années, pour accompagner et aider nos patients diabétiques de type 1, mais pas seulement, dans la gestion de leur diabète, qui n'est pas une mince affaire au quotidien, on se reposait sur la glycémie capillaire, qui a été à l'époque une révolution. Hein, c'est dans les années 70, ça a été pour les patients et pour les diabétologues une révolution. Avant ça, on mettait une bandelette dans les urines. Mais en fait, effectivement, les limites, je ne vais pas les reprendre, hein, mais les limites de cette autosurveillance glycémique par glycémie capillaire, on les connaît. Et le côté également extrêmement laborieux de remplir le carnet, qui était souvent rempli dans la salle d'attente, pour lequel on avait juste les glycémies, pas beaucoup plus d'indications. On en a vu les limites, et finalement, ces limites, on les a perçues encore de manière bien, bien plus importante lorsqu'on a eu accès à ce qui a été pendant très longtemps un graal de l'autosurveillance, c'est-à-dire non plus de se reposer sur des glycémies capillaires faites de temps à autre, et parfois pas, mais d'avoir une mesure continue du glucose. Alors, ce n'est pas une mesure continue de la glycémie, c'est du glucose, c'est la concentration de glucose du liquide interstitiel, mais dont on estime qu'elle est plus ou moins bien corrélée, mais plutôt plus et de mieux en mieux corrélée à la glycémie capillaire. Et vous voyez qu'on en arrive à des tracés sur lesquels je vais revenir qui sont beaucoup plus explicites. Alors, un tout petit peu d'histoire, mais plus brièvement que ce que vous a fait Nadia tout à l'heure, pour dire que effectivement, on a eu toute une époque depuis le milieu des années 90 jusqu'à, on va dire, les fins des années 2000. Enfin, 2010, la première décennie de 2000, on était au stade de la recherche, puis à l'utilisation confidentielle. On avait effectivement le Freestyle Navigator ou le capteur de chez Medtronic ou le Dexcom, mais qui était vraiment réservé finalement dans des situations extrêmement précises. Et puis en plus, il n'y avait pas d'accès au remboursement. Et là, vraiment, on a assisté depuis 2014 à une véritable révolution avec la disponibilité du freestyle libre. Je vais vous expliquer pourquoi le freestyle libre a été une révolution par rapport aux autres systèmes. Et puis surtout, à partir de juin 2017, avec le remboursement très large, on va y revenir également, de ce système. Et puis peut-être une seconde révolution avec le fait que ces outils soient des supports à la télémédecine, que ce soit la téléconsultation ou la télésurveillance, pour ces patients diabétiques de type 1, ça va être une révolution peut-être dans l'organisation des soins et l'accompagnement de ces patients. Alors, je vous rappelle un rappel pour qui est important à mon sens, parce qu'effectivement, ça a mis un tout petit peu de temps à être remboursé parce que l'assurance maladie était assez inquiète des surcoûts liés à ce remboursement. Elle s'émeut un peu de voir effectivement les conditions de prescription depuis le remboursement qui ne sont pas toujours respectées. Donc je me permets de vous les rappeler. Ce remboursement, il est accessible à tous les patients qui ont un diabète de type 1 ou de type 2. Donc c'est le seul système de mesure continue qui est remboursé chez les patients qui ont un diabète de type 2, adultes et enfants âgés d'au moins 4 ans. mais il faut bien entendu qu'ils soient sous insulinothérapie intensifiée, c'est-à-dire qu'ils aient au moins 3 injections d'insuline par jour. Une simple insuline basale n'est pas suffisante, a fortiori quand les patients n'ont pas d'insuline, il n'y a pas de remboursement. Ils peuvent, pourquoi pas, aller sur le site et se l'acheter eux-mêmes, mais il n'y a pas de remboursement. En théorie, il faut que les patients fassent initialement une autosurveillance glycémique au moins 3 fois par jour. Ça, je dois dire que dans mon expérience, c'est totalement facultatif parce qu'on voit des patients diabétiques de type 1 qui font aucune autosurveillance glycémique, mais dès lors qu'on leur donne le freestyle, ils font énormément de scans. Alors par contre, ce qui est extrêmement important, c'est qu'il faut que cette prescription soit accompagnée d'une formation à l'utilisation de l'outil. Parce que sinon, on risque de se retrouver avec simplement un outil qui permet de ne pas se piquer le bout du doigt, mais c'est vraiment à ce moment-là un gâchis, tant le potentiel de cet outil est important. Et puis j'insiste sur le fait que, non pas par esprit corporatiste, mais simplement là aussi pour respecter les prescriptions initiales, c'est que les deux premières prescriptions sont faites par le diabétologue, avec une prescription initiale accompagnée d'une formation, et à 3 mois, on évalue si effectivement cet outil est utilisé correctement, quel bénéfice il apporte au patient, comment le patient vit l'utilisation de cet outil. Et à ce moment-là, dans la très très grande majorité des cas, les patients trouvent que c'est une révolution. On prescrit pour 1 an, et à l'issue de cette année plus des 3 mois, donc 15 mois, le renouvellement peut être fait par vous, médecin généraliste, mais pas avant. Alors, pourquoi est-ce que c'est une révolution ? Parce que c'est un outil extrêmement simple et extrêmement commode. Il n'y a pas de calibration. Donc, sauf dans certaines situations où effectivement le patient trouve que la valeur que lui donne son freestyle n'est pas en accord avec ce qu'il ressent ou ce qu'il ne ressent pas. Hein, si la valeur est basse et qu'il ressent aucun signe d'hypo, c'est bien qu'il vérifie. Si à contrario la valeur est très haute mais qu'il n'a aucun signe de polyuropolydipsie, il faut qu'il contrôle. Et l'inverse également, s'il a des symptômes et que le système lui montre une valeur normale, il contrôle. Mais en dehors de ces situations, il n'y a pas de calibration nécessaire pour que cet outil fonctionne. Sa durée d'utilisation est de 14 jours, ce qui est 2 fois plus que les autres systèmes actuellement. Et enfin, la mémoire tampon est de 8 heures, ce qui veut dire que dans ce capteur, dans ce qu'on appelle également l'électrode, il y a 8 heures de mémoire, et ensuite c'est glissant. C'est-à-dire que si on veut que le patient ensuite puisse engranger sur son lecteur ou sur son smartphone une mesure en continu 24 heures sur 24, il faut qu'il fasse un scan au moins toutes les 8 heures, sinon on perd des données. Donc ça aussi c'est une information importante, mais vous voyez que c'est quand même relativement simple. Et vous allez voir que 3 mesures par jour toutes les 8 heures, c'est bien plus que font les patients en pratique. Donc c'est très pratique parce que le patient peut utiliser un lecteur qui est également un lecteur classique de glycémie capillaire. Donc s'il a besoin, il peut vérifier sa glycémie. Et pour les gens qui ont un diabète de type 1, ça permet également de mesurer l'acétonémie, ce qui peut être utile dans certaines situations. Et ce qu'un grand nombre de patients trouvent extrêmement pratique, eh bien, c'est qu'on peut télécharger une application qui s'appelle LibreLink et se scanner avec son smartphone. Un smartphone qui sert à faire tout le reste par ailleurs. Qui n'est pas dédié à ça. Alors avec le danger que quand on utilise uniquement le smartphone, eh bien on ne peut pas contrôler, si on n'a pas le lecteur sur soi, on ne peut pas contrôler sa glycémie capillaire ni l'acétonémie, le cas échéant. Donc là-dessus, on a un certain nombre de rapports sur lesquels je reviendrai très brièvement. Alors déjà, on a des informations autres que le simple taux de glucose, mais on a où je suis, 112, d'où je viens. On a sur l'écran, vous voyez, les 8 heures qui précèdent. Très pratique, le matin, je fais un scan, je vois comment s'est passée la nuit. Et puis, parce que la nuit, effectivement, elle est faite pour dormir et pas pour surveiller son taux de glucose quand tout va bien. Et puis enfin, où vais-je ? D'accord ? Là, je suis en train de monter à une certaine vitesse. Et donc ça, c'est effectivement extrêmement utile, surtout quand la flèche est vers le bas et que le taux de glucose est dans les valeurs normales. Eh bien là, effectivement, le patient... il va sûrement avoir une action pour éviter une hypoglycémie. Donc on a des écrans qui engrangent 90 jours de données et ça permet d'avoir un certain nombre de rapports très utiles pour l'accompagnement de ces patients. Alors voilà des informations pertinentes, je viens de vous le dire, donc je passe là-dessus. Pourquoi une révolution? Pas fort. Ben, pour nous, on le sentait comme une révolution quand on a vu l'outil, mais c'est surtout le retour des patients qui nous a permis de confirmer que c'était une révolution, parce que c'est vraiment le terme qu'ils utilisent. Pour eux, c'est presque fini les piqûres au bout du doigt. Je dis presque parce que j'ai rappelé les situations où il faut quand même en faire. C'est discret. Donc là, effectivement, le patient, il peut le montrer, pourquoi pas, mais ça peut être en dessous plusieurs couches. Hein. En dessous la doudoune, ça marche l'hiver, il peut se scanner. Le patient qui est sur un chantier, il n'a pas besoin d'aller se laver les mains, etc. Il peut se scanner très, très facilement. Donc facilité de connaître son taux de glucose à tout moment, quand on monte dans la voiture, avant de rentrer une réunion. Si j'avais moi-même un diabète de type 1, il est certain que je me serais scanné avant de monter sur cette estrade. La prévention des hypoglycémies, les flèches de tendance sont extrêmement utiles et totalement intuitives pour les patients. Dès que les patients utilisent ce système, les études l'ont bien montré, le nombre et le temps passé en hypoglycémie diminuent très, très souvent, mais également la sérénité de l'entourage. Nadia vous en a parlé, pour les parents, ben effectivement, sans réveiller son enfant. Alors maintenant, il y a des systèmes qui sont encore plus sophistiqués pour les enfants, hein, vous avez vu qu'ils préviennent les hypoglycémies, mais on peut en tous les cas, là, sans réveiller l'enfant, regarder où est son taux de glucose, ou pour les conjoints ou conjointes anxieux, ça peut le faire également dans la nuit. Alors, qu'est-ce que ça a montré? Ce qui est intéressant aussi, c'est que la transmission de ces données, quand vous téléchargez les données sur les applications d'Abbott, sur les plateformes, eh bien, ça va sur le cloud de manière anonyme, mais ça permet donc d'engranger des big data. Ça, c'est simplement celle au niveau français, qui date de septembre 2018, donc des analyses de données en vie réelle. Hein. Ce n'est pas des études randomisées. C'est près, vous voyez, de 100 000 patients. Il doit y en avoir à peu près le double maintenant qu'utilise le freestyle. Je regarde Guillaume, mais c'est 200 000 à peu près actuellement, peut-être même plus. 270 000, me dit le professeur Halimi, ici au premier rang. Personne dit mieux ? On reste à 270 000. Donc, 220 000. Alors, vous voyez, c'est 312 millions d'heures de suivi de glucose interstitielle, donc qui nous permettent de voir qu'en France, les patients scannent en moyenne 10 fois par jour. Quel était le pourcentage de vos patients qui ont un diabète de type 1 ou diabète de type 2 traité par basal bolus qui faisait 10 glycémies capillaires par jour ? Vous voyez, donc 10 par jour. Après tout, on pourrait dire, oui, mais est-ce que c'est utile de faire 10 par jour ? Ben oui, ces données nous permettent de voir que c'est très, très utile. Vous voyez qu'il y a une corrélation parfaite entre l'hémoglobine glyquée estimée par la moyenne du glucose interstitiel en continu et le nombre de scans. Vous voyez que quand on est à 10 par jour, en moyenne, on est aux alentours de 7,6, 7,7, et que si on n'en fait que 3, ben on est à plus de 8, et que bon, la pente s'infléchit un petit peu quand on dépasse une quinzaine, mais vous voyez qu'on améliore encore l'hémoglobine glyquée. Donc ça paraît assez évident. Alors, mais ce qu'on pourrait se dire, parce que finalement, il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'à chaque fois qu'on améliorait l'hémoglobine glyquée, on augmentait le temps passé en hypo, le risque d'hypoglycémie. Eh bien, ce n'est pas le cas avec ce système de mesure continue. Vous voyez que là aussi, plus on augmente le nombre de scans, plus on diminue le temps passé en dessous de certaines valeurs, 45, 55 ou 70 mg par décilitre. Donc ça, c'est vraiment un message important. Plus on fait de scans, meilleure est l'hémoglobine glyquée en moyenne et meilleure est la prévention du temps passé en hypo. Alors, je ne vous ai pas montré les études pivot randomisées qui ont permis d'établir l'intérêt de ce système, mais des études en vraie vie que je ne vais pas du tout vous détailler, simplement pour vous dire qu'il y en a eu dans différents pays, Écosse, Royaume-Uni, Israël. Celle-là est particulièrement intéressante parce qu'elle s'adresse à des enfants et des jeunes adultes et adolescents, bien sûr, de 4 à 24 ans, voilà, qui ont duré plus ou moins longtemps. Ce sont des études en vie réelle qui ont regardé également avant, après, l'utilisation du système. Et vous voyez que, de manière absolument uniforme, on assiste à une amélioration de l'hémoglobine glyquée dès lors que les patients utilisent le système par rapport à l'utilisation précédente de l'autosurveillance glycémique. Et que ça paraît assez naturel, mais enfin, encore faut-il le dire, c'est peut-être intéressant quand même de souligner que plus l'hémoglobine glyquée est élevée, meilleure est la baisse de l'hémoglobine glyquée. Je dis simplement ça parce qu'effectivement, j'ai vu quelques réactions en disant oui, les patients qui sont à plus de 9 ou plus de 10%, ça veut dire qu'ils ne font pas d'autosurveillance glycémique, c'est pas la peine de leur donner ce système, c'est du gâchis. Non, pas du tout. Ils se mettent à en faire, ils se mettent à faire beaucoup de scans, et puis ils améliorent leur hémoglobine glyquée. Donc n'ayons pas d'a priori pour la prescription de ce traitement chez les patients qui peuvent accéder au remboursement. Là, vous voyez, c'est pareil. Quand, en moyenne, les patients passent de 8,4 à 7,8, ce qui est tout à fait significatif. Dans le diabète de type 1, gagner 0,6 points, c'est tout à fait significatif. Et ceux qui étaient le plus élevés, qui étaient à plus de 8,5, qui avaient en moyenne 10, ils gagnent encore plus. Et ben, c'est vrai aussi chez les enfants, les adolescents et les adultes jeunes, avec effectivement, comme l'avait dit tout à l'heure pour une étude Eric Renard, c'était pas non plus les plus déséquilibrés, mais ils gagnent également à utiliser ce système. Mais aussi dans le diabète de type 2, donc là encore, plusieurs études en vie réelle, en Israël, en France, avec Hélène Anner comme leader de cette étude multicentrique, en Autriche, et celle-là était même une étude qui était randomisée, contrôlée, donc avec un tirage au sort, eh bien on assiste à la même chose, c'est-à-dire une amélioration tout le temps de l'hémoglobine glyquée chez les patients diabétiques de type 2 en multi-injection, dès lors qu'ils se mettent à utiliser ce système par rapport à l'autosurveillance glycémique. Dans cette première étude, le critère principal était la satisfaction avec le système. Mais pour ceux qui connaissent, vous savez que la satisfaction est très grande, et vous voyez que là aussi, c'est 100% de très satisfait ou modérément satisfait, avec près de 90% de très satisfait. Alors, en synthèse des données de ces études, ben effectivement, on assiste à une réduction significative de l'hémoglobine glyquée, une réduction des hypos, quel que soit le type de diabète. L'efficacité, elle est d'autant plus importante que le niveau d'équilibre était détérioré. N'éliminons pas ces patients. L'efficacité, elle est d'autant plus importante qu'on se scanne souvent. Donc, incitons les patients qui ne se scannent pas beaucoup et qui sont encore déséquilibrés à le faire plus. Et puis, bien entendu, pour tout ça, ce n'est pas un simple outil qu'on donne comme ça. Il faut accompagner les patients, les former, évaluer, et puis se fonder sur leur expérience pour continuer à améliorer le système. Alors, un petit mot pour terminer de l'autre révolution qui arrive aussi, c'est tout ce qui concerne la télémédecine. Effectivement, les patients qui ont un diabète de type 1 ou type 2 et qui utilisent ce système n'échappent pas à la règle. Il y a une possibilité, effectivement, d'utiliser une plateforme qui s'appelle LibreView, sur laquelle le patient peut soit télécharger les données à partir de son lecteur, soit s'il utilise... je vais revenir peut-être... ouais, je ne sais pas où je l'ai mis. S'il utilise son smartphone, eh bien, et dès qu'il a une connexion Internet, dès qu'il s'est inscrit sur la plateforme, il va y avoir une transmission immédiate des données du smartphone sur cette plateforme LibreView. Alors voilà le type de données qu'on a. Vous voyez que ça, c'est ce que vous a montré tout à l'heure Eric Renard avec les nouveaux critères, les nouveaux paramètres d'évaluation de l'équilibre d'un diabète. Ce n'est plus la seule hémoglobine glyquée avec la question en consultation, est-ce que vous faites des hypos sévères, est-ce que vous faites beaucoup d'hypos une fois par semaine ou plus, etc. On a tout ça, on a le temps passé dans la cible, la variabilité glycémique, le temps passé en hypo, le temps passé en hyper, etc. avec une estimation de l'hémoglobine glyquée à partir de la moyenne glycémique. Il faut bien voir que quand vous dosez une hémoglobine glyquée, pourquoi est-ce qu'on a inventé le dosage de l'hémoglobine glyquée ? C'était pour avoir une estimation de la moyenne glycémique, parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse. On aurait commencé par la mesure continue du glucose, on n'aurait pas inventé le dosage de l'hémoglobine glyquée, puisque maintenant, on a directement la moyenne glycémique, de laquelle on estime l'hémoglobine glyquée tellement on est habitué à ces valeurs. Mais voilà, finalement, c'est ça qui nous intéresse, plus le temps passé dans la cible, le temps passé en dessous, etc. Vous avez ici le nombre de scans quotidiens. Donc ça change complètement l'évaluation, mais ça change également l'accompagnement et le rapport avec le patient, parce que là, il faut les prévenir, quand on analyse ces données quotidiennes, d'autant plus que le patient va indiquer directement sur son lecteur ou son smartphone quand est-ce qu'il se fait les piqûres d'insuline et quelle dose et combien de glucides il prend avec les pommes. Ici, vous voyez, ça, c'est les glucides. Eh bien, on rentre dans sa vie intime, véritablement. Et on peut, à ce moment-là, voir, parce que finalement, pour la grande majorité de nos patients qui ont un diabète de type 1, la difficulté, ça n'est pas de savoir comment on gère l'insuline. La théorie pourrait vous faire un cours dessus. C'est de le faire au quotidien et ce n'est pas une mince affaire. Et là, on peut aller voir avec eux comment ils gèrent leur insulinothérapie au quotidien, et les aider, les accompagner pour essayer d'améliorer les choses. Alors simplement pour vous dire que ce programme de télésurveillance avec cette plateforme LibreView, mais également avec d'autres, peut rentrer dans le cadre d'un programme expérimental qui s'appelle ETAP. Donc je vais pas vous détailler ça, mais simplement voilà, ça consiste à aller voir un certain nombre de notifications pour voir si le patient utilise le système, si le patient n'est pas en hypoglycémie permanente, etc., une fois par semaine, auquel cas, s'il y a vraiment des problèmes, on peut le contacter. Et puis, un accompagnement thérapeutique mensuel qui peut se faire soit en face à face, comme indiqué ici, soit par téléphone, en téléconsultation, par exemple. Et donc, ça fait quasiment une consultation de diabétologie mensuelle qu'on peut offrir à ces patients dès lors qu'ils dépassent un certain niveau d'hémoglobine indiqué, plus de 8% pour les gens qui ont un diabète de type 1, plus de 9% pour les diabétiques de type 2. Donc, ça permet vraiment d'apporter, de pouvoir apporter un suivi beaucoup plus fréquent à ces patients en difficulté, chose qu'on ne peut absolument pas faire dans notre pratique habituelle. Alors simplement, c'est mes deux dernières diapos pour vous dire que même si ce sont des outils formidables, ça permet de voir aussi que parfois le diabète de type 1, c'est ça. Et que, effectivement, et là je rejoins la présentation de Nadia Tubiana et d'Éric Renard, la mesure continue, elle est surtout intéressante parce qu'elle est un outil qui est parfaitement intégré dans la boucle fermée. La boucle fermée ne peut se développer, le pancréas artificiel ne peut se développer parce qu'on a des pompes, certes, mais parce qu'on a des outils de mesure continue du glucose. Et pour terminer, je voulais vous montrer donc un exemple d'une patiente qui a le système DiapLoop, développé par Guillaume Charpentier à Corbeil-Essonne. Voilà, vous voyez, 84% du temps passé dans la cible, 1% du temps passé en hypoglycémie, une hémoglobine glycée estimée à 6,7%, et voilà le type de courbe qu'on obtient, avec quasiment 100% du temps ici pour cette journée dans 70-180. Je vous remercie de votre attention.
Merci Monsieur Penformis. Y a-t-il une question sur cette intervention, Monsieur au fond?
Je voulais savoir si c'est utilisable avec les anticoagulants et les antiagrégants.
C'est aucune difficulté. C'est vraiment l'électrode, elle est vraiment dans le tissu interstitiel, vraiment en sous-cutané.
Il n'y a pas de problème.
Bonjour, je suis interne en médecine générale. Est-ce que le freestyle peut être utilisé dans les IRM?
Alors, en théorie, la réponse est non. En pratique, il s'avère que ça pose souvent pas de problème, mais en fait, les radiologues veulent très très souvent veulent que le patient enlève son électrode. Donc, quand on programme une IRM chez un patient, faut plutôt l'en avertir, et puis de telle sorte que, comme ça dure 14 jours, qu'ils sont contingentés au niveau du nombre. Hein, c'est vraiment un tous les 14 jours. C'est effectivement qu'ils attendent peut-être de passer l'IRM et qu'ils remettent pas une électrode la veille, par exemple. Ce serait un peu idiot. Mais en pratique, je ne sais pas, dans votre expérience, je crois que ça ne pose pas de soucis. Hein. Mais c'est Sylvie Picard qui m'a dit ça, qui est une collègue diabétologue qui a également un diabète et qui utilise le système, qui m'a confié que ça ne posait pas de problème. Mais dans les mentions légales du produit, c'est marqué qu'il ne faut pas en faire. Comme c'est marqué qu'il ne faut pas monter sur des lignes à haute tension, des choses comme ça. Voilà.
Alors, au cours de cette matinée, nos experts nous ont présenté des nouvelles stratégies thérapeutiques, des perspectives qui sont ouvertes par les nouvelles technologies, des conduites à tenir, beaucoup de conduites à tenir dans les complications du diabète. Ma question que je vais vous poser, compte tenu des délais pour cette table ronde, et je m'en excuse, on prend toujours, mais ce sont des discussions interminables, dans quelle mesure cette innovation va transformer vos pratiques et votre réflexion dans la prise en charge du diabète? Alors je vais vous donner la parole, Claire, puisque vous représentez les patients notamment. Ils n'ont pas encore eu la parole depuis 4 heures de débat, et je vais vous donner la parole pour que vous nous donniez votre plaidoyer sur cette question.
Merci beaucoup. Alors peut-être une précision du coup par rapport à votre question, parce que est-ce que c'est par rapport aux innovations techniques, technologiques, aux innovations médicamenteuses ou
médicamenteuses,
aux innovations
oui, c'est ça.
Plutôt organisationnelles
Alors, il y a également l'organisationnel, mais je pense que le numérique va impacter sur l'organisationnel, de même que les stratégies thérapeutiques.
Ben c'est sûr qu'on vient de le voir aujourd'hui, je pense, dans la diabétologie, et notamment pour les patients diabétiques peut-être plus de type 1, ils ont des outils connectés. Alors, ils ont des dispositifs médicaux connectés, comme les lecteurs de glucose en continu. Mais demain, on verra sans doute aussi des gestions de pilotage automatique de la maladie. Et ça, c'est vrai que c'est souvent encore inexploité. alors même finalement que cette transformation un peu numérique devrait permettre d'améliorer la coordination des soins, devrait permettre d'améliorer le dialogue médecin-patient, et ça c'est essentiel, et devrait permettre d'aider le professionnel aussi à la décision médicale. Néanmoins, une fois dit ça, je pense qu'il est important de rappeler que ces innovations, pour qu'elles fonctionnent, elles doivent être développées avec les patients et pour les patients. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à la Fédération, il y a maintenant près de 4 ans, on a mis en place le Diabète Lab, un outil qui permet de penser l'innovation avec les patients. On a des sociologues qui interrogent les patients sur leurs besoins, sur leurs attentes. Et ça, je pense que c'est un vrai message à faire passer aujourd'hui. Si vous avez une innovation, quelle qu'elle soit technologique, qu'elle soit organisationnelle, pensez aux patients dès le début, pensez à nous pour construire des offres, quelles qu'elles soient, qui répondent vraiment à leurs patients et qui ne soient pas finalement des inventions, mais des vraies innovations. Ça, c'est peut-être sans doute le premier point. Et le deuxième point, je pense que ces nouveaux outils, il ne faut pas oublier qu'ils nécessitent une vraie formation des patients. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment insister. Mettre un outil dans les mains d'un patient sans formation, c'est aujourd'hui pas forcément ce qu'il y a de mieux. Le patient, il a vraiment besoin d'un accompagnement pour apprendre à utiliser ces nouveaux outils. Et ça, c'est, je pense, essentiel. Et enfin, ça doit permettre vraiment de renforcer le lien entre patient-médecin et non l'inverse. Faudrait pas penser que parce qu'on a des nouveaux outils connectés qui permettent de transférer des données plus facilement, ça doit permettre de voir moins son médecin. Alors ça peut être moins son médecin en présentiel, mais néanmoins, ça doit renforcer le lien, l'échange qu'a le patient avec son professionnel de santé.
Très bien, merci. Benoît Lucas, même question, même...
Donc moi, je suis l'intrus, hein, oui. Pharmacien.
Non, vous êtes pharmacien, désolé. Vous recevez des patients quand même, vous travaillez dans le dépistage.
Tout à fait. Alors, on a beaucoup parlé de solutions technologiques pour le traitement des patients. Il se trouve que nous, en officine, on intervient plutôt au niveau du dépistage. Donc la technologie, moi, dans mon exercice, ce que j'utilise, on n'en a pas parlé aujourd'hui, c'est un appareil qui s'appelle le Sudoscan, qui permet de dépister un risque de diabète chez le patient. Donc dans ces cas-là, quand on utilise ce matériel, on envoie le patient chez son médecin. La technologie, j'ai bien entendu l'exposé enthousiaste de l'orateur précédent sur le freestyle. Nous, à l'officine, on accompagne beaucoup le patient par rapport à ces nouvelles technologies. Je vais vous donner un exemple tout simple. Quand il manque un capteur, par exemple, il y en a un tous les 14 jours, on s'arrange pour avancer les capteurs de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans la collecte de données.
De données, ouais. D'accord. Sudoscan, je vous voyais réagir.
Pas résumer la table ronde au Sudoscan.
Non,
je pense que le dépistage du diabète, c'est un acte médical avec une glycémie à jeun dont le résultat doit être encadré, interprété de façon à expliquer la signification de cette information, car ça peut entraîner un désarroi, une détresse ou au contraire une réaction un petit peu de défiance ou d'inquiétude. Et je pense qu'une démarche de dépistage est vraiment une démarche encadrée médicale et pas un appareil qui n'est pas prévu pour faire un dépistage du diabète.
Bien entendu, quand on utilise le Sudoscan, c'est bien entendu pour adresser au médecin et on met toutes les précautions oratoires auprès du patient pour leur dire qu'il ne s'agit pas d'un diagnostic, mais quand on voit qu'il y a un risque possible, une façon de voir s'il s'agit de l'adresser de façon plus ou moins urgente vers son médecin généraliste. C'est, voilà.
Vous pouvez poser des questions également, interagir avec les intervenants. Philippe Lemonnier. En termes de
oui,
vous êtes médecin généraliste.
Donc voilà, moi je suis médecin généraliste. J'interviens dans un milieu rural, semi-rural à Montreuil-sur-Mer, dans une maison médicale où on est 5 médecins. Je Moi, j'ai suivi tout ça de façon très intéressée. Je pense que ce qui, effectivement, comme disait Claire Desforges, il faut vraiment essayer de recentrer ça au milieu, enfin, en mettant le patient au milieu de tout le monde. On doit absolument pouvoir travailler en réseau, que ce soit le pharmacien, pour moi, il n'est pas l'intrus. Hein. Je pense qu'il a son rôle à jouer. Je suis aussi d'accord en disant qu'effectivement, le dépistage, et quand je parlais tout à l'heure du médecin généraliste, je pense qu'il reste un peu le coordinateur principal et le chef d'orchestre un petit peu de tout ça. On a quand même un rôle d'annonce, d'éducation, même si on doit être perfectible là-dedans et qu'on n'a pas le temps, on doit pouvoir aussi déléguer certaines choses pour trouver le bon intervenant, le diabétologue qui pourra le suivre, l'orienter vers un infirmier, une prise en charge au niveau de la kiné, etc. C'est vraiment un patient qui va, on l'a vu au cours de cette matinée, avoir énormément d'intervenants différents, hein, dans plein de, que ce soit le cardiologue, le rhumatologue, l'ophtalmo. Je veux dire, il faut vraiment essayer de coordonner tout ça. On a des problématiques de temps passé avec le patient, et c'est vrai qu'il faut essayer d'harmoniser tout ça. Et moi, je pense qu'effectivement, les nouveaux outils, les nouvelles technologies doivent aussi nous permettre, en fait, de mieux communiquer, de mieux permettre de faire passer les messages, d'avoir des choses qui soient redondantes. Alors, le dossier médical partagé, j'avoue que pour l'avoir vu un petit peu, je ne trouve pas ça très extraordinaire, mais je pense que c'est quelque chose qui a un potentiel énorme. Et je mets beaucoup d'espoir dans cette technologie qui nous permettrait éventuellement dans le futur d'échanger des données de façon plus simplement. Et je pense aussi que le patient doit vraiment intervenir et on doit écouter le patient. On doit, pour moi, j'ai eu une expérience aussi avec les états généraux du diabète et je trouve que on me demandait des mots qui étaient importants. Je pense qu'il faut parler, je pense qu'il faut échanger, je pense qu'il faut inclure les gens et je pense qu'avec tout ça, il faut essayer de co-construire des nouvelles stratégies.
Vous allez ouvrir une nouvelle MSP sur Montreuil.
Oui, voilà.
L'un des objectifs de cette MSP ?
Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est parti d'un constat aussi. Nous, on est 5 médecins. On a une maison médicale qui évolue depuis une vingtaine d'années, puisque moi, je suis installé depuis 22 ans. Il y a un autre médecin qui était à côté de chez nous qui va partir en retraite et qui est remplacé par deux futurs consoeurs. Et donc, en fait, on a émis le souhait de faire quelque chose qui soit décentralisé, c'est-à-dire qu'on ne soit plus sûr, puisque nous, on ne peut pas agrandir notre cabinet, mais essayer de faire quelque chose qui permette d'inclure les deux consoeurs qui vont s'installer pour essayer de travailler ensemble et de mettre en rapport, il y a une pharmacie qui est juste à côté, il y a des infirmiers libéraux qui sont à côté, essayer d'avoir quelque chose qui soit sur des sites différents, mais qui nous permette de travailler ensemble, parce que ça nous fera gagner du temps à tous et ça améliorera la prise en charge du patient. Donc voilà, ça c'est le projet qu'on a.
au début de la matinée, je ne sais plus qui montrait ça, je crois que c'est M. Rivalo, qui a présenté une slide sur le mécontentement des patients. Comment est-ce que vous réagissez sur le mécontentement des... Ils sont mécontents, les diabétiques, sur les prises en charge ?
Ah, mais il y a des raisons, ils auraient des raisons d'être mécontents. Oui. Je veux dire, quand on essaye d'avoir... quand on est un petit peu, nous, dans une impasse thérapeutique et qu'on essaye d'avoir un rendez-vous auprès d'un diabétologue et qu'on a des délais qui se comptent en mois, je ne suis pas content, le diabétique n'est pas content et je suis légitimement d'accord avec lui. Donc, je veux dire, c'est... Et quand je vous dis qu'on a des problèmes de communication, c'est ça. Moi, j'ai eu, quand je suis arrivé sur le secteur, j'ai rencontré des gens et on s'est aperçu avec différents professionnels hospitaliers qu'on avait une problématique que les spécialistes avaient une problématique de rendez-vous. C'est-à-dire qu'ils avaient des gens qui n'arrivaient pas au bon moment dans la pathologie. Et donc, en fait, on a essayé de changer ça. Et on a créé un réseau de soins en rhumatologie qui a permis de voir les gens au bon moment. Et moi, je trouve que c'est effectivement ça. Je veux dire, on a des ressources locales qui sont importantes. Il faut que ça soit local. On ne peut pas appliquer un plan national. On est obligé de travailler avec des choses qui sont locales. Et il faudrait effectivement que les bons patients, vous voyez, les bons intervenants au bon moment, où tout le monde gagnerait du temps. Et je veux dire, et je pense que le travail des spécialistes serait valorisé, le nôtre aussi, et les patients mieux pris en charge. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui voulait intervenir.
Oui, monsieur Penfermis.
Une question, est-ce que la télé-expertise pourrait être, de votre point de vue, une solution, une alternative intéressante?
Alors, moi, j'ai toujours trouvé que la télé-expertise pouvait être intéressante vraiment sur des choses qui étaient techniquement ponctuelles. Je pense que la médecine générale reste un métier manuel et intellectuel. Un patient, ça s'examine, ça se palpe, ça se connaît. Moi, j'ai des patients que je suis depuis 20 ans, des générations, ce qui est très agréable. Et je pense que, on a une connaissance du patient qui va nous permettre, je parlais tout à l'heure du bon moment, et en matière, par exemple, de prescription d'insulinothérapie, on connaît les gens, on connaît un peu leurs craintes, on sait comment ils fonctionnent. On peut aussi amener les choses et arriver à avoir des acceptations qui soient meilleures. Vous parliez tout à l'heure de la satisfaction des patients. Je pense que le fait de connaître les patients, d'avoir une confiance en eux aussi, va nous permettre d'appuyer, par exemple, une demande de la part du diabétologue qui va être de passer à une insulinothérapie. On va pouvoir jouer un petit peu de notre influence à ce moment-là. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait des relations, il faut qu'il y ait des réseaux, il faut que ça soit fluide, tout ça.
Annie Vanier, vous êtes...
Oui, alors là, voilà, par exemple, c'est oui, tout voilà. à fait... Ça rebondit très bien.
Donc, je vous voyais...
Oui, alors, moi, je représente donc, la Société francophone du diabète de la branche paramédicale. Donc, c'est vrai que la prise en charge des patients diabétiques, l'amélioration de cette prise en charge, c'est notre mission première. Et c'est une affaire de tous, donc c'est vraiment la multidisciplinarité. Et avec tous les paramédicaux que nous sommes, infirmières, diététiciennes, podologues, masseurs-kinésithérapeutes, enfin tous ces paramédicaux donc, vont travailler dans ce sens-là. Et il est vrai que, pour rebondir par rapport à tout ce qui était l'expertise, là je vais plus vous parler de l'expérience que nous avons, nous, dans le service de diabétologie au Creusot, où on a mis en place dernièrement une télé-expertise via les infirmières libérales de la région pour optimiser la prise en charge des plaies des patients diabétiques, pour optimiser en fait les prises de rendez-vous. Donc on est complètement dans cette démarche. Par contre, il est vrai qu'il faut rester dans une prise en charge totalement personnalisée, parce que pour rebondir par rapport aux craintes des patients, que ce soit par rapport à tous les problèmes rencontrés, par rapport à la pénurie des médecins, par exemple, nous, sur notre territoire, on a une véritable pénurie médicale. Donc c'est en cela aussi où on a pris ce virage ambulatoire pour diminuer la durée moyenne de séjour de nos patients par rapport à la fréquentation, la demande de ces patients. Donc on est passé complètement là-dedans. Et il est vrai qu'il faut s'appuyer de toutes les structures qu'on peut avoir autour de nous. Et on a la chance d'avoir encore un réseau de diabétologie qui est un réseau de patients et un réseau de soignants et qui permet vraiment de former aussi tous les soignants qui gravitent autour de cette prise en charge de la diabétologie. Et voilà un petit peu moi le résumé que je voulais en faire, mais surtout utiliser effectivement toutes les nouvelles technologies, c'est quelque chose de primordial, on a la chance d'avoir tout cela à notre portée, mais de rester sur une personnalisation de la prise en charge de nos patients, parce que c'est vrai que les patients, ils peuvent avoir ces craintes-là. Dans les services hospitaliers, il y a beaucoup de redéploiement de personnel, donc pas forcément toujours des équipes dédiées, donc il faut au mieux tracer ce parcours de patience, parcours de vie. Et ce qui fait que on voit naître des nouvelles professions, on a des infirmières de coordination, et puis là dernièrement aussi on a les infirmières de pratique avancée qui vont bientôt partir, qui vont bientôt prendre leurs fonctions donc à la rentrée prochaine.
Voilà. Les IPA, ce sont des infirmières hospitalières ou il y en a également des... Il peut y en avoir libérales, voilà. Oui. C'est ça. Mm-hmm. Monsieur Tivolet, quelle est votre réaction sur ma question concernant...
Moi, je pense que je partage l'opinion qui vient d'apparaître sur la notion qu'on ne peut pas résumer le diabète, une maladie complexe, à de la technologie. Il y a quand même à faire face à un certain nombre de défis épidémiologiques. On l'a vu ce matin avec l'augmentation de la prévalence du diabète. Alors qu'il y a une diminution du nombre de praticiens, et donc en fait on a une situation paradoxale entre cette émergence d'une pathologie chronique et finalement une carence dans les soins primaires mais aussi secondaires pour la prise en charge raisonnée, coordonnée de cette pathologie. Deuxième problème, c'est le problème économique, parce qu'on a une augmentation des coûts exponentielle. Ce n'est pas en raison des coûts du médicament. Il y a aussi les dispositifs médicaux, on en a parlé, plus 15% sur la dernière année. Donc il faut savoir être beaucoup plus efficient sur l'utilisation des moyens qui nous sont accordés pour mieux utiliser les ressources. Troisièmement, c'est une problématique de la coordination. Et ça, c'est ressorti. On a un vrai défi à mieux organiser les parcours. Et je dirais que les enjeux, ils sont multiples. D'abord, c'est sur la prévention de cette maladie. On n'insiste pas assez sur les méthodes qui permettraient de mieux prévenir plus tôt l'apparition du diabète et de dépister utilement et correctement en se disant qu'un diabétique, ce n'est pas qu'une glycémie. On a vu le risque cardiovasculaire tout à l'heure. Il faut raisonner de façon globale sur l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire parce que le pronostic, il est cardiaque. La problématique, deuxièmement, c'est renforcer la coordination. On en a parlé plusieurs fois. Autour des acteurs de proximité, je pense que c'est très important, mais aussi renforcer la coordination entre les soins primaires et les soins de recours de proximité ou des recours hospitaliers. Je pense qu'il faut améliorer cette coordination et là, il y a un vrai chantier. Actuellement, il y a une réflexion autour du plan Ma Santé 2022. Il va y avoir l'année prochaine le travail autour des parcours de soins concernant le diabète. Et je pense que là, vraiment, il va falloir qu'on trouve les éléments importants pour mieux coordonner tout ça. Il faut définir les points de rupture, c'est-à-dire à quel moment il faut passer, recourir aux spécialistes ou recourir à un avis. Donc il faut des indicateurs et donc il y a un gros travail, un gros chantier qui s'annonce. Je pense qu'échanger, partager les informations, vous avez parlé du DMP, je pense qu'on a un vrai problème en France, c'est qu'il y a presque autant de systèmes de santé que de praticiens. Donc la problématique, c'est d'arriver à coordonner tout ça pour essayer d'avoir en temps réel des informations partagées pour qu'on ait une information pertinente d'un patient avec toutes les interactions avec tous les spécialistes autour de ce patient. Il faut qu'on puisse savoir ce qui se passe pour éviter de la redondance d'examens, par exemple, qui sont déjà réalisés, mais qu'on va refaire alors qu'on n'est pas au courant qu'ils ont déjà été faits. Évaluer les pratiques. Je pense que, en tant que praticien, mais je pense que n'importe qui a la même préoccupation, c'est dans notre patientèle, quel est le profil de cette patientèle, quels sont les sujets qui sont à risque, est-ce qu'on est en harmonie par rapport aux recommandations, qu'est-ce qui reste à faire et cibler son énergie sur des patients à risque. Je pense qu'on a un vrai travail là aussi pour piloter sa propre activité et donc des outils de pilotage. Je pense que l'engagement du patient est vraiment très important, on l'a souligné là. Et la notion de lutter contre l'inertie thérapeutique, à la fois pour les patients, mais aussi pour les praticiens, parce qu'on est parfois dans une zone de confort à reproduire des prescriptions. Et je pense qu'il faut se poser des questions lorsque les choses ne marchent pas, pourquoi et qu'est-ce qu'on doit faire comme stratégie. Donc cette notion d'inertie est aussi une notion de dépense d'énergie et une dépense financière. Donc je pense que, vous voyez, on est au-delà de la technologie. Bien sûr, je partage toutes ces innovations et je trouve que là, on vit une période fascinante et merveilleuse. Mais, encore une fois, l'aspect humain, le contact, les interactions dans une maladie chronique, c'est essentiel.
Donc la proximité. Aujourd'hui, il y a un forfait diabète. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et vous vouliez réagir, Claire?
Sur la question du forfait diabète. Oui. Nous, on a été très favorables à son annonce sur le forfait diabète. Pourquoi? Pour tout ce qui vient d'être dit, en fait, pour que ça permette notamment plus de coordination et pour que ça permette plus de pertinence et finalement de liberté aux équipes soignantes de s'organiser autour du patient pour qu'il y ait une vraie prise en charge personnalisée, parce qu'on parle de parcours. Mais finalement, il pourrait y avoir autant de parcours que de patients. C'est finalement comment on peut mettre en place une organisation qui permette de répondre aux besoins de chaque patient à un instant T, parce qu'on sait que la vie avec une pathologie chronique n'est pas uniforme. On a beau avoir un diabète de type 1 très équilibré, il y a des ruptures, il y a des moments de stress intense, de changement de travail, de divorce, où on sait que ça a un impact sur l'équilibre du diabète et que du coup il y a besoin d'une prise en charge beaucoup plus renforcée à ce moment-là autour de patients et du coup des soins plus nécessaires et en ça il faut qu'il y ait un mode de financement qui permette aux équipes certes à l'hôpital mais demain surtout en ville j'ai envie de dire de s'organiser pour donner les soins requis à un moment donné aux patients. Peut-être le point important, c'est que derrière la mise en place de ce forfait, qui est pour l'instant à l'hôpital, il faut qu'il y ait des indicateurs. Il faut que ça soit l'occasion d'avoir des vrais indicateurs d'évaluation et que ça ne soit pas que des indicateurs d'évaluation clinique, que ça ne soit pas que des indicateurs sur effectivement le temps passé dans la cible, l'HbA1c, comme on a beaucoup entendu parler ce matin, mais également des indicateurs d'évaluation d'expérience patient pour justement à terme voir comment la mise en place d'une réforme qui est initialement financière a un impact organisationnel et un impact sur la prise en charge du patient et sur sa qualité de vie. C'est bien ça l'objectif de la réforme et il faut que ça reste effectivement dans cette mesure.
Monsieur Tivolet, vous vouliez ajouter quelque chose ou quelqu'un d'autre, hein, prenez le micro.
Moi, je pense que c'est un sujet passionnant, le forfait du diabète. Il a eu plusieurs appellations, forfait de transformation. Maintenant, ça s'appelle forfait du diabète. Et aujourd'hui, je pense qu'après 18 mois de discussion, il est encore difficile de savoir où est-ce qu'on va, mais on devrait le savoir prochainement. Mais on va quelque part.
Alors, c'est bien.
On va quelque part. Donc je pense qu'il y a, ce n'est pas le lieu et le temps de parler de ce forfait puisque les choses ne sont pas encore totalement actées. Mm-hmm. Je pense qu'il y a un partage entre, on a parlé de la notion économique, mais surtout la notion de bon sens et la notion d'une prise en charge coordonnée d'une équipe socle multiprofessionnelle. Effectivement, ce forfait qui aurait dû être dans une notion de parcours entre la ville essentiellement, puis ensuite l'hôpital, a été initié sur une réflexion autour de la prise en charge hospitalière, puis ensuite, dans un deuxième temps, la prise en charge plus globale. Bon, la méthode a été prise dans ce sens-là, et actuellement, la discussion est de réfléchir autour de cette équipe socle qui permet de prendre en charge, dans ce qu'on appelle la prise en charge ambulatoire, mais qui est en fait essentiellement portant sur les consultations et les hospitalisations de moins de une nuit, c'est-à-dire essentiellement l'hôpital de jour, pourrait avoir une sorte de prise en charge globale de ce type-là, sous la forme d'un forfait annuel, permettant d'essayer d'améliorer la prise en charge des patients. Et la discussion actuelle porte sur les montants de ces forfaits, l'équipe socle, et définir éventuellement une sorte de charge en soins permettant de grader à la fois les ressources, les recettes et les ressources pour la prise en charge de ces pathologies. Donc pour l'instant, c'est une grande discussion et qui n'a pas encore totalement abouti.
D'accord, très bien. Je vais vous demander, avant de redemander à M. Tivolet de conclure cette matinée, le take-home message, le message que vous, on a des amis journalistes dans la salle, le message que vous souhaitez transmettre en termes de pistes d'amélioration sur la prise en charge du diabète, et je vais vous demander, Benoît Lucas, de débuter.
Diantre. J'entends un peu d'ironie ici. Non, je pense que, en ce qui me convainc pas, en ce qui me concerne, mais c'est très important de dépister les nouveaux cas. Il y a une sous-évaluation à ce niveau-là, de prendre les gens plus rapidement pour avoir de meilleurs soins. Et donc, du coup, la technologie peut sans doute nous y aider. C'est très bien comme ça.
Philippe Lemonnier.
Donc, moi, je vais rejoindre un petit peu tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'on ne pourra pas lutter efficacement contre le diabète si on n'est pas ensemble. Ensemble, ça inclut les médecins, les patients surtout, et les professionnels de santé. Et donc, je pense qu'il faut essayer vraiment d'harmoniser tout ça. J'avais dit que tout à l'heure, je pense que c'est inclure et construire ensemble.
Très bien. Annie Vanier.
Alors moi, ce sera parcours de vie avec une prise en charge pluridisciplinaire, multidisciplinaire.
Très bien. Claire.
Je pense que vous avez parlé, docteur Lemonnier, de nos états généraux l'année dernière. Je pense qu'il y a les mots vraiment d'un besoin de tous les acteurs d'humain, d'humanité, d'humanisme. Et du coup, les pistes d'amélioration sont assez nombreuses. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait un an des états généraux. Et moi, je vous invite à les lire, où on a 15 propositions et 58 actions qui visent vraiment à refonder notre système de santé pour une médecine fondée sur l'humanisme. Et donc, du coup, je vous invite à les lire, à venir nous challenger et à venir les mettre en œuvre avec nous.
Très bien. Y a-t-il des questions dans la salle à nos intervenants avant de demander à M. Tivelet de conclure? Tout a été dit, tout est compris. Très bien. À vous.
Bon, la conclusion est simple. Nous vivons une période formidable, d'abord de consensus sur la part de chacun autour du patient pour l'aider dans cette trajectoire difficile, chronique, pour lui donner un espoir de prise en charge optimale pour la prévention des problèmes associés par exemple à la complication, mais tout en essayant de respecter son quotidien, sa qualité de vie. La technologie va peut-être nous aider, mais ce n'est qu'un moyen. Je pense que l'aspect humain, l'aspect contact lié à cette maladie chronique est essentiel. Et je pense que tout ça est très positif et je suis très heureux de vivre encore cette période du point de vue professionnel.
Merci beaucoup pour cette conclusion optimiste. Je voulais remercier tous nos intervenants, nos partenaires, Pfizer, Abbott, Sanofi, les équipes qui ont travaillé du groupe Profession de Santé. Je voulais donner trois rendez-vous, un focus CARTESEL le 17 octobre prochain à Paris, les rencontres de la cancérologie française les 26 et 27 novembre, et un dernier focus de l'année qui sera sur les vaccins, la vaccination, le 12-12-2019. À bientôt et au revoir.